Alors, parmi les actifs financiers qui sont à leur plus haut historique, on en parle un petit peu moins, mais l'or, le métal précieux, est proche de ses records à 2 150 $ l'once, en hausse de 5% depuis le début de l'année. Bonjour Charles.
Bonjour David, bonjour tout le monde.
Fondateur du site Insolet CIE. Le CAC 40, on a parlé, le Bitcoin, les 7 magnifiques à Wall Street, tous ces actifs-là, évidemment, attire la lumière, mais l'or brille aussi de son côté. Le record absolu, c'était la semaine dernière, 2 195 $ l'once. Déjà, c'est pas un peu rare que les bourses et l'or montent en même temps, de concert?
Si, David, c'est rare, encore plus quand les taux d'intérêt sont élevés et que les taux d'intérêt sortent d'un mouvement, du plus fort mouvement de hausse qui n'ait jamais connu. Donc, si vous vous rendez compte, le paradoxe que l'on vit aujourd'hui, les taux d'intérêt ont considérablement augmenté sur les 2 dernières années. Nous n'avons pas eu de krach boursier, nous avons eu une envolée des cours boursiers pendant cette période-là, alors qu'on aurait tous pu anticiper plutôt une baisse des marchés. Et nous avons eu, alors que les taux d'intérêt sont élevés, ce qui veut dire que l'argent rapporte, que les liquidités placées dans les banques rapportent à nouveau, eh bien, on a une augmentation des cours de l'or qui, comme chacun le sait, ne rapporte rien. Puisque l'or ne rapporte pas de taux d'intérêt, sauf à faire des manipulations très particulières de type prêt d'or, mais ce qui n'est pas ouvert évidemment aux particuliers. Ça, c'est des choses qu'on peut faire qu'entre banques centrales ou entre que des très très gros détenteurs de métal jaune. Donc là aussi, on aurait pu penser avec des taux d'intérêt aussi élevés que l'or allait baisser, et c'est le contraire qui se passe.
Et donc cette vigueur de l'or, pardon, elle peut surprendre parce qu'en général, on sait que le métal jaune flambe quand il y a une crise aiguë, géopolitique, boursière.
Eh bien, on est plutôt servi, hein, sur ce front-là, David,
Pour la
puisque
géopolitique, oui.
côté crise géopolitique, on va dire les incertitudes géopolitiques au sens large, eh bien évidemment, vous avez depuis février 2022 la guerre en Ukraine, vous avez les peurs d'extension du conflit, vous avez les tensions autour de Taïwan entre la Chine et les États-Unis, vous avez évidemment depuis le 7 octobre 2023, eh bien un conflit extrêmement violent qui secoue le Moyen-Orient. Donc c'est Israël, Gaza, mais c'est aussi le Yémen, et c'est aussi toujours les craintes d'extension avec l'Iran, la Syrie, le Liban, le Sud-Liban, etc. Donc les craintes, les incertitudes géopolitiques sont bien là, elles sont un très fort soutien à l'or, surtout si on prend encore un tout petit peu plus de recul, eh bien cette guerre en Ukraine, cette polarisation autour des BRICS d'un côté et des pays, on va dire, occidentaux et membres de l'OTAN de l'autre, eh bien, entraîne un certain nombre de sanctions économiques. Tout le monde a en mémoire les sanctions économiques prises par l'Occident vis-à-vis de la Russie après l'invasion en Ukraine. Et ça va pousser un certain nombre de pays pas tout à fait alignés sur les positions occidentales, eh bien, à acheter de l'or. Et c'est ce qu'on voit depuis 2022, 2020, 2021, 2022, 2023. On a eu une augmentation progressive des achats des banques centrales. Alors, 2022 et 2023, c'est des records d'achats par les banques centrales depuis 60 ans.
Pardon, quelle banque centrale, Charles?
Et bien, justement, notamment les banques centrales des BRICS. Alors, la Chine, pour ne pas la nommer, la Russie évidemment, la Chine en est à son 16e mois consécutif d'achat d'or par sa banque centrale. Donc tous les mois, la Chine rajoute de l'or à ses réserves. Elle est devenue officiellement, avec plus de 2157 tonnes d'or en réserve, le 7e détenteur d'or au monde. Beaucoup soupçonnent que c'est beaucoup plus. La Chine pousse également sa population à acheter de l'or et à investir dans l'or. Et pourquoi? Parce que l'or va permettre évidemment des échanges, ou de garantir des échanges en dehors de l'utilisation du dollar. Donc c'est également une protection pour certains pays contre ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain, quand les États-Unis utilisent l'utilisation de leur dollar comme une arme politique et juridique contre les entreprises ou des États qui ont utilisé le dollar comme ils ne souhaitaient pas qu'il le soit. Typiquement, on n'a pas le droit aujourd'hui de commercer avec la Russie qui est sous embargo et sous sanctions économiques. Et donc, si la Chine commerce avec la Russie en utilisant du dollar, eh bien, la Chine va risquer des sanctions et les entreprises chinoises vont risquer des sanctions. C'est ça qu'on appelle l'extraterritorialité. Et ici, le métal jaune a évidemment toute son utilité dans les échanges intra-pays pour échapper aux sanctions américaines potentielles.
Dans cette hausse de l'or depuis le début de l'année, même l'an dernier, proche des plus hauts historiques, je ne sais pas si on peut distinguer quelle est la part de la dimension, on va dire, spéculative, parce qu'il y en a toujours une, et la dimension financière, géopolitique.
Alors, je crois aujourd'hui, David, qu'on n'a clairement pas de spéculation sur l'or au moment où nous parlons. Nous avons une lame de fond qui est d'une force exceptionnelle, avec des achats qui n'ont jamais été aussi importants par les banques centrales depuis 60 ans. Donc là, on parle vraiment de flux. On parle d'offres et de demandes, on parle de flux physiques. Donc vous avez une offre, vous avez une demande qui est extrêmement forte et une offre justement qui n'est pas aussi extensible que ça. Donc vous avez là une raison fondamentale qui n'a rien à voir avec la spéculation. Vous avez également des incertitudes liées justement à l'inflation et au taux d'intérêt. Si les banques centrales baissent les taux d'intérêt pour rendre l'endettement des États notamment supportable, je vous rappelle qu'avec 3 000 milliards en France, c'est un peu plus encore, hein, mais arrondissons à 3 000 milliards de dettes pour la France, à 5% de taux d'intérêt, si les taux restaient à peu près là où ils sont, on va dire 4%, on parle de 120 milliards d'euros par an, rien que pour payer les intérêts de la dette en France. Donc c'est totalement intenable, c'est pas plus tenable pour l'Italie, c'est pas plus tenable pour les États-Unis.
Je coupe Charles, les taux sont à moins de 3 aujourd'hui, pardon, sur le 10 ans français. On est heureusement pas à 4, encore moins à 5.
Si vous continuez dans ces déficits et si vous continuez dans cet endettement des États et si vous continuez sans que les banques centrales interviennent, aujourd'hui, pourquoi les taux sont redescendus un petit peu, David ? C'est parce que les marchés anticipent que de toute manière, ça va être intenable. Et comme ça va être intenable, les banques centrales vont baisser les taux, vont réintervenir comme il se doit pour éviter, évidemment, une succession de défauts de paiement ou de problèmes, une crise de la solvabilité ou une crise basée sur la crainte d'une insolvabilité des États. Donc, c'est ça qu'ils anticipent aujourd'hui, les marchés. Et donc ça, c'est extrêmement favorable à l'or. Donc là, vous avez un deuxième élément fondamental qui n'a rien à voir avec de la spéculation, mais vraiment avec de l'analyse fondamentale macroéconomique sur ce qu'il y a de plus important, à savoir l'intervention ou la non-intervention des banques centrales, la politique monétaire menée par les banques centrales, qui est vraiment au bout du bout du bout le juge de paix de toute l'économie mondiale. Ce que vont faire la Fed, ce que vont faire la BCE et les banques centrales moins importantes, mais la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse, voilà, ce que vont faire ces cinq grosses banques centrales occidentales, ça influe considérablement sur l'économie mondiale et c'est assez logique.
Charles, ça fait 4 ans, j'ai regardé, que l'or a testé à plusieurs reprises ce cap des 2000 dollars l'once. Là, c'est la quatrième fois. Le cap tient pour l'instant. Alors, j'y connais absolument rien à l'analyse technique, à l'analyse des graphes. C'est sûrement meilleur expert que moi. J'ai juste trouvé une étude qui dit, à propos de l'or et de l'analyse technique sur l'or, que la rupture haussière des 2100 dollars constitue un signal majeur, suggère une nouvelle phase de progression avec des objectifs techniques, théoriques situés vers 2600 dollars. Et la zone des 3000 dollars doit être considérée comme une cible potentielle à long terme. Ça vous inspire quoi ?
Oh, ça m'inspire que c'est tout à fait juste. Alors d'abord, c'est plutôt 2485 dollars très précisément pour le premier objectif de mouvement haussier si on fait une analyse technique. Arrondissons à 2500 dollars. Les 3000 dollars, c'est évidemment un vieil objectif qui avait été donné et indiqué depuis des années et qui serait tout à fait cohérent avec la création monétaire que nous connaissons depuis des années et avec cette politique des taux d'intérêt d'abord bas, puis qui sont devenus négatifs, puis qui ont remonté avec l'inflation, mais qui sont attendus à nouveau en baisse en raison de ce que je vous disais, hein, qui était la solvabilité des États et la soutenabilité du niveau d'endettement. Si nous allons vers une baisse importante et significative des taux d'intérêt dans les mois qui viennent, eh bien, il est évident que nous allons connaître c'est pas un emballement aussi, hein, c'est un réajustement de l'or par rapport à ses fondamentaux économiques, toujours sur fond de partition du monde en termes géopolitiques, donc avec des achats très importants des banques centrales. Des achats des banques centrales, des BRICS qui sont très importants, ne peuvent pas laisser les banques centrales occidentales totalement insensibles à ces achats. Et donc, les banques centrales d'ailleurs occidentales sont tellement pas insensibles qu'elles ne vendent plus leurs réserves d'or, ce qu'on avait vu pendant des années, ça fait 15 ans, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, qui avait vendu 600 tonnes d'or des réserves de la Banque de France. Donc, pendant des années, les banques centrales occidentales ont été vendeuses, elles ne le sont plus. Donc oui, on a un boulevard et une autoroute vers les 3 000 dollars l'once.
Allez, point de vue signé Charles Sanna, fondateur du site Insolentia. Merci Charles, salut, bonne semaine.
Merci David, merci à tout le monde.